De quoi parlons-nous aujourd'hui?
Nous allons commencer donc avec le marketing inclusif.
Oh!
Donc, les annonceurs et plateformes médiatiques sont confrontés à un changement de paysage au niveau du marketing plus diversifié. Ils attendent les besoins et le potentiel économique au niveau de la diversité, entre autres pour les personnes en situation de handicap.
Oh, mm-hmm.
Ça ouvre tout un marché, François, pour, par exemple, des vêtements ou des objets qui aident les personnes en situation de handicap.
Tout à fait. Et c'est bien parce que il n'y a rien comme l'argent hein, pour motiver le changement.
C'est très malheureux, mais en même temps, effectivement, puis on en a parlé aussi au niveau du tourisme, François,
oui,
c'est-à-dire que quand il y a de l'argent à faire, tout d'un coup, on adapte nos produits. Donc, et effectivement, entre autres, avec les élections américaines, on a vu une évidence là, que... il fallait se rapprocher du public et aller vraiment au-delà des données démographiques pour avoir une relation plus proche avec la clientèle et s'assurer de vraiment répondre à leurs besoins et à leurs envies. Ce qu'on disait à l'article, entre autres aussi, François, c'est qu'effectivement, les personnes handicapées représentent 26 % de la population américaine.
Oh, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Par contre, on parle aussi que parmi les personnes en situation de handicap, 52 % souhaitent que leur groupe identitaire soit mieux représenté à la télévision et ils disent que leur identité est mal représentée en général.
Ça, c'est vrai. Ben, d'abord, vous voyez presque jamais quelqu'un en situation de handicap dans une dramatique ou dans une réclame publicitaire. Ça c'est le désert, à moins que ce soit... Que toute l'histoire...
Que ça serve autour du personnage.
Toute la dramatique, où là, évidemment, le personnage est soit pitoyable ou extraordinairement inspirant. Là,
oui,
c'est...
un ou l'autre.
Un ou l'autre. Mais moi, il y a un matin, il y a une journée sur deux, je suis pitoyable et l'autre, je suis incroyablement inspirant. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous aussi.
Moi, non, des fois, je suis juste pitoyable.
Ben, oui, je faisais une blague. Alors, oui, effectivement, moi, la plupart du temps, je suis juste ordinaire. Et il est un fait qu'il s'agit d'un pouvoir économique possible. Et
oui.
C'est comme ça qu'on va être capable de changer les choses.
Et on se rend compte aussi que même les personnes qui ne sont pas en situation de handicap sont plus sensibles à ce type de marketing-là et donc vont encourager des compagnies qui font plus attention aux personnes en situation de handicap ou plus largement à la diversité, même si eux ne font pas partie des groupes de la diversité. Donc, on peut aussi aller chercher des gens qui ne font pas partie de ces groupes-là en étant sensibles parce que les gens sont mieux éduqués par rapport à la cause, comprennent mieux les défis, comprennent mieux les enjeux, donc vont essayer d'encourager quand ils voient une compagnie faire un effort au niveau de la diversité.
Mais on peut penser aussi qu'il y a un effet de multiplication. Pour chaque personne qui est en situation de handicap, il y a au moins une autre personne valide dans la population à qui cette situation tient à cœur.
Oui.
Un proche, un parent.
Oui, effectivement, on a des proches, on a des familles. Et au-delà de ça, comme je le disais, même les gens qui ne sont pas entourés de personnes en situation de handicap sont rendus beaucoup plus sensibles à ce type de marketing. Donc, effectivement, il y a de l'argent à faire, François, et de plus en plus, les compagnies s'en rendent compte. Je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières années, mais quand même une bonne multiplication.
Il y a un élargissement du spectre, si je peux dire, des représentations.
Oui.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est très bien. On va continuer dans ce sens-là. Et dans une autre arène, l'arène politique.
Oui, on va parler de la politique, François. Dès la participation politique des personnes en situation d'handicap, dans leur prise de décision en matière de santé.
Oui, c'est important, ça. OMS Europe, hein, l'Organisation mondiale de la santé en Europe.
Qui vient de sortir un article. Donc, cette année, ils ont une journée dont le thème est « Amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Donc, ils se sont entretenus avec trois femmes qui sont en situation de handicap pour examiner comment leur rôle et la mission des organisations auxquelles elles contribuent de façon bénévole ou militante et comment ça les aide dans leur quotidien et quels sont les défis de ces femmes-là au quotidien.
Oui, et ça, c'est un article qu'on peut retrouver et c'est important de lire et de voir comment différents types d'actions peuvent faire des différences, que ce soit une implication politique ou dans le domaine communautaire.
Oui.
Et parfois des femmes qui viennent de pays où il y a encore de gros préjugés.
Oui, effectivement. Donc, on parlait d'une femme qui vient de Bruxelles. On parlait également d'une femme qui vient de Moldavie.
Oui.
Donc, on sait en Moldavie, au niveau des droits des personnes en situation de handicap, il reste un petit peu de travail à faire.
Exact. Et la troisième qui participait à cette... qui était interviewée dans le cadre de cet article, est elle-même de Macédoine.
Oui, de Macédoine du Nord.
Là, on peut imaginer qu'il y a quand même souvent des obstacles. Entre autres, on parlait de la santé reproductive
oui.
des femmes en situation de handicap, où en fait, carrément, là, l'institutionnalisation leur recommandait de systématiquement avorter.
Oui,
là.
D'avorter les enfants, effectivement, et on en a parlé dans les derniers mois ensemble, là, François. C'est quand même quelque chose qui, même ici au Québec, au Canada, est un problème. Ça revient encore souvent, là, même si on est
tout
en 2024.
25, proche.
Presque 25, effectivement. les femmes se font considérer d'avorter. On a aussi des problèmes au niveau... On remet en doute leur capacité parentale.
Oui.
On a aussi des... Bon, on est surpris de voir qu'une femme en situation de handicap peut tomber enceinte, y compris de la part de médecins, de professionnels de la santé fortement expérimentés.
Oui, exactement. Ben, enfin, et tout en parlant des droits, et de, maintenant on va passer à en Allemagne où
oui.
on vit avec un handicap. Là, il y a des progrès, mais il y a encore des progrès à faire.
Oui, un article donc qui nous vient d'Allemagne qui nous dit finalement que l'Allemagne dispose de nombreuses infrastructures accessibles aux différentes formes d'handicap, entre autres également des marques au sol et des dispositifs sonores dans les rues, sur les quais, dans les gares pour arrêter les personnes malvoyantes d'un danger. Ça, c'est intéressant quand même, François.
Tout à fait. Parce qu'il y a eu en 2019 une enquête qui a été menée pour savoir dans quelle mesure il existe des cabinets gynécologiques accessibles aux femmes handicapées.
Oui.
Et puis, dans toute l'Allemagne, ils en ont trouvé 9.
C'est où ça se garde?
Oui, parce qu'il semble effectivement qu'il y ait une assez bonne, de bonnes initiatives et une pratique d'inclusion
oui.
Et d'accessibilité dans tout ce qui est gouvernemental.
Oui.
Mais quand on parle du domaine privé,
oui.
que ce soit des cliniques médicales privées ou encore des employeurs,
oui.
là, il y a vraiment...
Il y a du travail à faire, un peu comme on voit ici, François. Donc, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap peinent à trouver un travail en Allemagne, peinent à avoir des soins de santé où ils peuvent même entrer dans la bâtisse pour des questions d'accommodement, d'accessibilité. Effectivement, vous en avez parlé aussi au niveau des soins gynécologiques. Donc, même s'il y a des bonnes avancées, peut-être au niveau des déplacements, au niveau des transports publics, il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau du privé et au niveau aussi des préjugés contre les personnes en situation de handicap où on les empêche en fait d'avoir un travail et de mener une vie saine.
Exact, tout à fait. Alors, il y a quand même 13 millions, on estime qu'il y a 13 millions de personnes en situation de handicap en Allemagne.
Oui.
C'est inscrit dans l'article 3 de la loi fondamentale de la Constitution que personne ne peut être désavantagé en raison de son handicap.
Alors, le pays a également ratifié en 2009 la Convention internationale sur les droits des personnes en situation de handicap de l'ONU.
Exact. Et aux élections législatives en 2021, la coalition gouvernementale menée par Olaf Scholz avait prévu de revoir la loi et de la mettre à jour. Mais ce gouvernement-là a comme beaucoup de difficultés.
Oui.
M. Scholz vient de se faire tasser par ses partenaires et il y aura probablement des élections... Qui vont changer la donne un petit peu en Allemagne bientôt.
Ça n'est plus une priorité.
Ben, ça risque de passer un petit peu dans la trappe. À Liège, en Belgique, on tente de rendre le tram plus accessible, mais là, il y a comme des incohérences.
Oui, ben on a un petit problème d'équité, en fait. Parce que, vous le savez, là, François, au niveau des différents handicaps, on demande, ont des besoins particuliers. Une personne qui a des problèmes visuels n'a pas nécessairement les mêmes besoins, évidemment, qu'une personne qui est en fauteuil roulant.
Exact.
Et de faire plaisir à tout le monde, d'adapter pour tous les types d'handicaps, semble poser problème au niveau du tram, entre autres. Il y a au terme minimal d'une bordure pour les personnes malvoyantes équivaut à la hauteur maximale admise pour les fauteuils roulants.
Ah, ça veut dire que finalement, pour embarquer dans le train, il y a comme une petite marche qui permet à quelqu'un qui a une canne blanche de savoir que c'est le train.
Oui.
Et malheureusement, qui ne permet pas à quelqu'un qui est en fauteuil de facilement embarquer dans le train.
Oui.
Bon.
Donc, la question, c'est qui on priorise?
Ben, peut-être qu'on pourrait utiliser une plateforme pédotactile, là, oui. comme qui ressemble à des gros Lego.
Oui.
Ça, je pense.
Effectivement, j'imagine qu'il y a des solutions, mais vous voyez un peu la complexité de la chose, là, c'est-à-dire ouais. qu'au niveau des normes,
exact.
Respecter les normes devient difficile là, quand on a différents types d'handicaps qui se côtoient dans la société.
Ben, et moi, je pense que ça peut-être ça revient toujours à la même question de consulter en amont et puis de
oui.
faire ses devoirs. On finira bien par trouver les solutions. Un peu de la même manière, c'est assez surprenant, en France, la direction de la recherche et des études de l'évaluation et des statistiques, hein, la DRES, qui est en fait le bureau de statistiques du gouvernement français,
oui.
constate que en France, la prévalence du handicap est très variable.
Oui, ça dépend en fait au niveau des territoires.
Oui.
Ce qui est effectivement quelque chose d'assez étonnant, c'est que tout dépendant des territoires, là, ça varie entre autour de 15 % de 10 % tout dépendant des territoires,
oui,
même 7,5 % au niveau des personnes en situation de handicap d'un territoire à l'autre. Et on ne sait pas encore exactement pourquoi il y a ces variations.
Tout à fait. Il y a vraiment, c'est presque du simple au double. Et
oui.
ça peut être un département qui en juxte un autre. Et puis, dès qu'on traverse la rue, il y a moins de personnes handicapées. Ça, quelque
oui.
chose me dit que c'est le fait de s'auto-déclarer.
Oui, probablement.
Voilà. Ben, après la pause, on reste en France. Des grosses nouvelles à l'Assemblée nationale.
Au quotidien, 5e écoutée, sans détour, avec François Beauregard.
De retour pour la revue de presse. Effectivement, Élisane Pellerin qui est avec nous. À l'Assemblée nationale en France, il y a une bonne nouvelle.
Oui, on approuve des mesures pour faciliter la vie des parents d'enfants atteints de maladies graves ou qui sont en situation de handicap. Ça s'est passé donc mardi, le 3 décembre. C'est une proposition de loi qui vise à simplifier le quotidien des parents qui prévoit notamment une aide pour accéder au logement, suspendre le remboursement d'un crédit ou pour être hébergé près d'un hôpital.
Oui, ça fait une différence. Élaborée par des associations de familles concernées, la loi a été adoptée en première lecture à l'unanimité. Et ça,
oui.
évidemment, si vous suivez un peu l'actualité en France, c'était tout juste avant que le gouvernement du premier ministre Michel Barnier ne se fasse montrer la porte.
Oui.
Alors, les députés français, tout de même, ont eu la bonne idée d'approuver l'essentiel.
Oui, on appelle ça un bon timing en bon français.
Tout à fait. Et on parle de choses très simples, mais qui valent la peine, que ça peut être les dépenses pour stationnement à l'hôpital, parce que ça demande des...
Ça finit par coûter
des
cher.
Des visites
moi,
presque quotidiennes, ouais. exactement.
Des séances de psychologue et également des séances de psychomotricien avec les enfants qui ne sont pas prises en charge...
En ce moment.
Donc oui, effectivement, de petits... ajustements, mais qui vont faire toute la différence pour les parents qui, ma foi, peuvent avoir des difficultés financières là, quand il y a un enfant qui est en situation de maladie grave ou d'handicap et qui ne peuvent
oui.
pas nécessairement travailler à temps plein. Hein.
Voilà. Et toujours dans la même nuit, de mardi à mercredi, et ça, nous en avions parlé la semaine
oui.
dernière.
Donc, de mardi à mercredi, toujours dans la même nuit, l'Assemblée nationale a également approuvé à l'unanimité le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie. Donc, la semaine passée, quand on en a parlé, François, on pariait que le vote allait se faire.
Et maintenant,
le vote est fait. Le
Exactement.
Vote est fait et ça passait à l'unanimité. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, évidemment, parce qu'on en parlait la semaine dernière. Les plafonds de remboursement étaient beaucoup trop bas pour ce que coûtaient réellement les fauteuils roulants, ce qui fait que les personnes en situation de handicap devaient débourser parfois plusieurs centaines d'euros pour leur fauteuil roulant parce que le fauteuil roulant n'était pas complètement remboursé.
C'est M. Pétavy qui lui-même utilise un fauteuil qui avait fait, qui avait déposé le projet de loi.
Oui.
Ça a été voté à l'unanimité. Bravo. Il reste évidemment que le Sénat français adopte toutes ces
oui.
mesures, mais ça ne devrait pas être aussi...
ça ne devrait pas être un problème quand ça
non,
passe...
Non, ça ne devrait pas être un suspense
voilà.
De la même dimension. Près de chez nous, la pauvreté au Canada, pour la pauvreté des personnes qui vivent avec un handicap, ça ne s'améliore pas.
Oui, le mouvement de l'handicap sans pauvreté et de Campagne 2000 ont publié un rapport conjoint sur la pauvreté liée aux personnes en situation de handicap qui souligne les échecs du gouvernement fédéral à mettre fin à la pauvreté liée au handicap malgré la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap qui a été annoncée. On en a parlé, François, c'est une prestation qui est mieux que rien, mais qui...
C'est 200 $
oui,
par
200
mois.
Oui, 200 $
Mais le fossé est beaucoup plus... C'est comme jeter une pelletée de sable dans un gouffre.
Oui, bien dit. Donc, effectivement, 200 $ par mois, c'est pas assez. Attendons-nous, les personnes en situation de handicap ont besoin de beaucoup plus d'argent que ça. Il y avait aussi des questions au niveau de l'admissibilité, devrais-je dire,
oui,
des personnes en situation d'handicap. C'était quand même très restreint comme mesure pour les personnes qui avaient droit.
Tout à fait.
Donc, effectivement, que le rapport 2024 de pauvreté sans handicap, de handicap sans pauvreté, pardon, dit en fait, c'est que le gouvernement fédéral a raté la cible.
Oui, et faut rappelons qu'une personne en situation de handicap sur 6 vit dans la pauvreté et que c'est une personne sur 3 qui vit seule. Qui est en situation d'handicap, qui est à ce moment-là sous le seuil de la pauvreté. Les personnes en situation d'handicap auraient besoin de 30 % de revenus de plus simplement pour atteindre le seuil oui. de la pauvreté. C'est beaucoup, là.
Oui.
Ça veut dire qu'ils ne sont pas un petit peu en dessous du seuil. Ça veut dire qu'ils sont franchement
30 %,
en dessous.
30 %, c'est énorme, mais ce n'est pas avec 200 $ par mois qu'on va y arriver.
Exact. Alors, Mme Rabia Kader, qui est la directrice nationale du mouvement Le Handicap sans pauvreté, réclame qu'immédiatement la prestation de 200 $ qui avait été
promis
mise de l'avant,
promulguée
au mois de juin dernier, qu'elle soit plutôt de 600. Voyons comment, dans le contexte préélectoral canadien et toutes sortes de choses, comment ça va se... Mais j'ai comme l'impression que le discours va être « Ah, la communauté des personnes en situation de handicap a déjà eu un petit quelque chose, là.
Oui,
alors,
voilà.
Pourquoi revenir là-dessus? Hein? »
Malheureusement, c'est que le poids de vote des personnes en situation de handicap n'est pas assez élevé pour vraiment pousser le gouvernement à faire des changements majeurs par rapport à la prestation, surtout dans le cas, vous l'avez dit, François, où tout le monde veut une partie du gâteau.
Oui, voilà, le gâteau qui est pas immense et avec beaucoup d'assiettes autour.
Voilà.
En parlant de gâteau, et là, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission avec M. Dominique Salgado du Cap-Viche, coupe dans l'aide à domicile.
Oui, en fait, il y a le programme Chèque emploi service du gouvernement du Québec qui permet d'embaucher et de payer des employés ou des proches aidants pour donner des soins à domicile. Donc, pour aider le maintien des personnes en situation de handicap ou des personnes aînées à domicile.
Exact.
Il y a eu des coupes, François,
oui.
Et on parlait aussi de coupes la semaine dernière au niveau des adaptations de logements. Donc là, une semaine après l'autre, ça fait beaucoup de coupes.
Oui, exact. Et encore une fois, très malheureusement, cette annonce est arrivée presque en catimini, là, un courriel du CIUS de l'Est de l'île de Montréal qui est daté du 2 décembre. Dont le journal Le Soleil a obtenu copie, stipule qu'à des fins de répondre à des contraintes budgétaires importantes, nous devons procéder à une suspension temporaire de tout nouveau service. Alors, ça a été annoncé là comme du jour au lendemain.
Oui.
Et pour des familles, ben c'est impossible de s'adapter là. Puis pour parler familièrement là, de se revirer de bord.
Oui, ben on parle de personnes là, qui se sont fait couper plus de la moitié de leurs heures, des heures auxquelles ils avaient droit. Donc ça se compte en heures, là, c'est-à-dire en heures de soutien pour une personne qui a besoin de soutien au niveau du handicap ou au niveau d'une situation de vieillissement, par exemple. Et donc il te faire couper la moitié des heures auxquelles on a le droit, ça équivaut évidemment à énormément de problèmes, surtout du jour au lendemain, alors qu'on peine à trouver d'autres solutions. Il y a des organismes, évidemment, communautaires qui essaient d'aider les familles qui sont dans des situations difficiles ou les personnes isolées en situation difficile, mais évidemment, ils ne le fournissent pas. Et la demande va faire qu'à croître, étant donné les problèmes au niveau du gouvernement à respecter ses engagements au niveau de l'aide monétaire qu'il devait offrir, qu'il n'offre plus. Donc, effectivement, ça cause problème pour des personnes qui sont dépendantes de ce type de service-là pour rester à la maison.
Exact. Ça met une pression énorme sur les familles, les parents. D'ailleurs, pour citer une des intervenantes qui est participé à l'article ou qui a été mentionné dans l'article paru dans Le Soleil cette semaine. Elle disait, on sait très bien que le parent, il va prendre soin de l'enfant quand même. Ben il ne va pas démissionner, il ne va pas aller faire la grève ni manifester. Alors, c'est facile de couper les heures dans nos familles, sachant très bien que le parent ne va pas abandonner son enfant. Alors, mais ça va créer toutes sortes d'autres problématiques.
Oui,
des parents qui sont obligés de quitter leur emploi, des tensions de toutes sortes dans la maison.
Ça va augmenter la pauvreté, ça va augmenter aussi les problèmes psychologiques, bien
exact.
Sûr. Évidemment, il va y avoir des cas de maltraitance à l'optique ou des personnes qui doivent avoir des services... non, pas de service, des personnes qui se font lever du lit en début d'après-midi, par exemple, des personnes qui n'ont pas reçu leur médication, ce genre de choses-là.
Ouais.
Donc, effectivement, il va y avoir des abus, il va y avoir des personnes à bout, vous l'avez dit, François, et ça, ben forcément, ça cause des malheurs dans les familles.
Ça ne peut qu'aller mal.
Oui,
et, c'est, en fait, tous ces problèmes-là vont éventuellement retomber dans le
service
de santé.
Sur le
système
public. Oui, sur le système public, il y a des gens qui vont se retrouver malheureusement à l'urgence pour des choses qui aurait été évitable.
Tout à fait.
Avec les services de santé qui sont difficiles à obtenir, mais effectivement, ça va tous se retrouver dans les services d'urgence.
Moi, ça me fait penser à la mentalité qu'on avait il y a bien longtemps, enfin, pas si longtemps que ça, au sujet de l'environnement, hein, que quand on avait un tas de trucs qu'on voulait jeter, ben c'était pas compliqué. On allait au bout du chemin, en haut de la côte, puis on tirait ça dans le fossé,
oui.
Exactement, ou dans l'ancienne carrière de sable, là, puis
oui.
Ben là... pas grave, c'est pas dans notre cours,
oui, oui.
Mais à force de faire ça, ben ça nous a...
On mettait ça dans les cours d'eau jusqu'à temps de se rendre compte que les cours d'eau, finalement, n'étaient plus potables.
Les cours d'eau n'avaient plus la même couleur.
Oui, c'est ça. on voulait plus se baigner dedans tout le coup.
Exact. Ben là, alors, parfois, ce qui arrive en ce moment dans le système de santé, ben c'est un peu ça. On coupe, on fait du mal, puis on va devoir de toute manière réparer.
Oui, ça coûte beaucoup plus cher, en fait, de payer un médecin là, pour gérer des problèmes de dents, par exemple, ou de payer un médecin pour gérer des problèmes psychologiques,
exact.
Alors que ça aurait coûté beaucoup moins cher de donner un soutien à domicile, par exemple, pour les personnes, pour éviter qu'ils se retrouvent donc à être internés dans les hôpitaux pendant parfois plusieurs jours. Là.
Ou simplement en CHSLD.
Oui.
Qui
coûte extrêmement cher. Là.
Oui, à coût de dizaines de milliers de dollars par année.
Et c'est pas comme si on avait beaucoup de place.
Non, mais ça, c'est une autre affaire.
Oui.
Alors, bon, bien, voilà, ça, on en a parlé déjà plus tôt aujourd'hui, mais ça vaut la peine de retaper dessus. Bonne nouvelle, hein, politique Oreo.
Oui, ben vous me connaissez, François, hein, je veux pas vous laisser sur des mauvaises nouvelles, j'aime pas ça. Donc, il y a Ville de Québec qui lance un programme d'approvisionnement inclusif.
Oh.
On a parlé de la Ville de Québec dans les dernières semaines. Ils font quand même un effort
c'est
notable,
vrai.
François,
c'est vrai.
Pour améliorer leur ville, la rendre la plus inclusive possible. Et donc, là, on dévoile un programme d'approvisionnement social,
ah.
Une première dans la province, un projet qui vise à inclure... dans ces contrats des entreprises qui favorisent l'embauche des personnes en situation d'handicap ou en réinsertion sociale.
Donc, les entreprises qui vont faire des démarches, déposer des soumissions pour fournir des biens et des services
oui.
à la Ville de Québec, c'est un critère qui va être tenu en compte.
Oui. Donc, encore une fois, c'est tout simple, hein, mais ça peut effectivement faire changer la mentalité des entrepreneurs et des compagnies. On sait que la plupart du temps, quand il y a des besoins de soumission qui sont faits par la Ville, on parle de contrats qui sont quand même de très gros contrats
mm-hmm.
Qui peuvent changer les chiffres d'une compagnie au bout de l'année. Hein, donc, les compagnies souvent veulent ces contrats-là et on peut penser qu'ils vont faire un effort supplémentaire là, si c'est maintenant dans les critères d'inclure les personnes en situation d'handicap dans leur entreprise. et ou dans en réinsertion sociale, mais en tous les cas, c'est une bonne chose. Et oui. Évidemment, ça va aider au niveau des préjugés, parce que un coup que c'est fait, un coup qu'on a entré une personne à accompagner, ben souvent on se rend compte que c'est pas grand-chose.
Que ça, hein? Que ça va bien.
Que ça va bien.
Et comme souvent, ces entreprises admissibles peuvent être de petite taille et pourraient ne pas être en mesure de satisfaire des besoins importants de la Ville de Québec, les entreprises admissibles pourront soumissionner aussi sur des contrats municipaux sous le seuil d'appel d'offres public.
Oui.
Donc, des contrats de taille plus modeste. Pour les aider à naviguer dans ce processus, la Ville leur offrira un accompagnement spécifique. Donc, la démarche vise à réduire les obstacles administratifs tout en respectant les exigences techniques, parce que peut-être, évidemment, tout le processus, parfois, peut être complexe. Alors, bien là, il s'agit d'un bel accompagnement. Et vous avez raison, il me semble qu'il y a des bonnes nouvelles du côté de l'accessibilité qui nous viennent de Québec depuis
oui,
un certain
Québec,
temps.
Oui, Québec, quand même, on va souligner le fait qu'ils font quand même un effort qui est notable et ils vont pallier le chemin pour les autres villes. Hein. Les autres villes, quand on voit le rayonnement de la Ville de Québec, ça donne envie de faire pareil.
De faire pareil, exactement. Mais après la pause, on s'en va en Outaouais. On parle de bonnes ou de mauvaises nouvelles, mais là, du côté de l'Outaouais, il y a quelque chose là qui accroche.
Du côté de l'Outaouais, donc du 6 Outaouais, donc du Centre intégré de santé et de services sociaux, on est à côté de la cible, François, encore une fois, au niveau de l'accessibilité du site web.
Oh, oui, en effet.
Particulièrement pour les personnes qui sont malvoyantes.
Ben voilà, parce que ça, c'est souvent, c'est la façon de communiquer, c'est le portail.
Oui. Et on le sait, François, là, pour essayer de trouver des informations sur les services de santé du 6 Outaouais. La façon de faire est vraiment d'aller sur le site Internet, hein, parce que par téléphone, évidemment, il y a peu de téléphonistes pour les personnes qui téléphonent. Le temps d'attente est long. Et tout dépendant sur qui on tombe, on peut avoir une information ou un autre.
Ben, moi, je trouve que chaque fois qu'on appelle au téléphone, on se fait toujours dire par une voix mécanique que...
consulter le site web.
Ou bien qu'on est dans une période particulièrement achalandée.
Oui.
Mais ça a l'air que c'est tout le temps particulièrement achalandé.
Oui, effectivement.
Étant donné un fort volume d'appels, c'est comme
quand
si...
je rappelle 6 mois après, là, c'est quand même...
Encore un fort volume d'appels, que ce soit...
C'est toujours la même.
Je peux comprendre, 9h du matin, le lundi, là, c'est peut-être pas... facile de trouver sa place au téléphone. Quoi qu'il en soit, le laboratoire de promotion de l'accessibilité du web avait, en 2019, classé les différents sites web en matière de santé et services sociaux au Québec. Et à ce moment-là, déjà, le site Outaouais se classait 23e sur 26.
Oui.
Et ça, c'est il y a 5 ans.
Oui.
Et ça semble pas s'être amélioré depuis 5 ans. Ils observent que certains efforts de mise à niveau ont été faits, mais... qu'il y a un relâchement avec le temps. Alors, il y a eu peut-être un petit effort, mais maintenant, tout d'un coup, les mises à jour ne sont plus conformes aux critères d'accessibilité. Donc,
non,
il y a comme une sorte de paresse intellectuelle.
Il y a eu une espèce de paresse intellectuelle. Il y a probablement aussi un manque de ressources, hein, François, à force
peut-être.
De couper des employés. Hein?
Mais...
il n'y a plus personne pour mettre les sites web à jour. Donc, effectivement, par contre, et ça aussi, c'est déplorable, François, lorsqu'on en a parlé, donc au 6 de l'Outaouais, pour leur dire qu'effectivement, les personnes malvoyantes avaient des difficultés à naviguer sur le site web. Ils ont répondu, malheureusement, que de leur côté, ils répondaient aux critères gouvernementaux.
Oui. Voilà. Alors, la barre est vraiment basse et puis, ben, on s'en tient là.
Et donc, aucun problème parce que nous,
on n'a pas de problème.
Les critères gouvernementaux, on les respecte. Donc, on ne voit pas où est-ce qu'on a un problème.
Exactement. Alors, ça s'appelle pelleter dans la cour du plus grand que soi.
Oui.
Mais à un moment donné, il faut parfois prendre des initiatives locales.
C'est un peu triste comme réponse, en fait.
Plutôt que
de répondre qu'effectivement, on va faire des efforts.
On en est conscient, on fait des efforts où on essaye de mettre en place des solutions palliatives. Ah! Dans un milieu plus sécuritaire, par exemple, pour les aînés et les personnes en situation d'handicap dans le Haut-Saint-François.
Oui. Donc, il y a 3 partenaires d'un projet. Il y a le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, les Étincelles de bonheur, qui est un organisme communautaire, et la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François, qui se sont unis pour débuter les travaux de mise en œuvre des actions proposées dans le rapport de recherche milieu sécuritaire qui avait été qui avait été publié dans le cadre de cette démarche novatrice et réflexion collective de développement des communautés sécuritaires dans le Haut-Saint-François en 2022. On réalisait donc un portrait populationnel des enjeux des personnes en situation de handicap. Les résultats de ce sondage ont permis d'identifier trois enjeux majeurs
qui devaient être adressés grâce à un financement provenant de la Fondation Mirella et Lino Saputo. Ils ont créé un guide d'adaptation locale à l'intention des commerces et des municipalités pour améliorer l'accessibilité. Continuer la mobilisation des partenaires du territoire, réfléchir, mettre en place et distribuer une nouvelle trousse pour le support à domicile adaptable et personnalisé, mettre en place une ressource de travail à proximité pour les personnes vivant avec un handicap, ben ça c'est bien, offrir des séances d'information et de formation relatives à la défense des droits, bravo, développer des stratégies de communication et de mobilisation, alors ça fait beaucoup de choses en même temps.
Et améliorer l'accessibilité et la diffusion sociale des activités et des loisirs offerts sur le territoire des MRC. Donc, encore une fois, c'est assez simple hein, comme initiative, là, c'est un guide. Mais bon, ça prenait évidemment des ressources pour le mettre sur place et pour le mettre en place, dis-je, et pour bien le faire. Et ça a été fait, donc, effectivement, au niveau du Haut-Saint-François, donc, voilà. De la MRC, on voit qu'il y a un projet avec trois partenaires, y compris un partenaire de la communauté, a permis d'améliorer les choses et de montrer une bonne volonté de rendre l'endroit plus sécuritaire pour les personnes en situation de handicap.
Et si vous ne savez pas c'est où le Haut-Saint-François, ben vous allez à la rivière Saint-François et vous la remontez. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça le Haut-Saint-François.
À la nage ou...
Non, il y a pas mal de courants. Quand vous prenez la 20, Mme Pellerin, que vous êtes dans le coin de Drummondville, vous croisez la rivière Saint-François.
Oui.
Alors donc, on parle d'une MRC qui est à peu près vis-à-vis de la région des Bois-Francs, mais s'en allant vers le sud-est.
Oui, je comprends.
D'accord, hein? Voilà. Kevin Breton, notre collègue Kevin Breton a fait un article intéressant où on publie quelque chose dans Radio-Canada au sujet du fauteuil. Le tennis en fauteuil roulant.
Oui.
Où il y a des problèmes de structure.
Il y a des problèmes d'équité entre les joueurs. Kevin Breton, qui est maintenant rendu journaliste sportif à Radio-Canada.
Tout à fait.
Et en fait, au niveau des joueurs en situation, donc, en situation d'handicap qui joue au basketball en fauteuil roulant.
Au tennis, devrait-on dire.
Oui, pardon. Au tennis en fauteuil roulant.
Ben, c'est ça. Alors, il y a deux catégories de joueurs en tennis en fauteuil roulant, mais comme il n'y a pas beaucoup de participation, ces catégories-là ratissent un peu large.
Oui, voilà. Donc, il y a vraiment deux catégories qui ratissent trop large. On parle des catégories, donc, de personnes qui sont paraplégiques, donc qui sont atteintes au niveau du bas du corps.
D'accord.
Et une deuxième catégorie qui inclut des personnes qui sont atteintes au niveau des membres supérieurs.
Mais le problème, c'est que dans cette deuxième catégorie, il y a des différences importantes tout de même.
Entre les conditions des joueurs.
Exactement. La préhension de la raquette, qui évidemment au tennis, on peut comprendre que c'est important, mais aussi, je dirais, la capacité de contraction des muscles abdominaux.
Oui.
Parce qu'on peut comprendre qu'en fauteuil, prendre un élan avec une raquette, il faut être capable de contracter le tronc.
Oui.
Pour avoir un meilleur coup.
Donc, effectivement, les gens qui ont un handicap un peu plus sévère se retrouvent à compétitionner avec des gens qui ont des handicaps moins sévères, qui ont plus de préhension au niveau des mains ou qui ont plus de force au niveau abdominal. Et, en fait, comme ils jouent contre des adversaires qui ont des handicaps plus légers qu'eux, ils sont toujours en désavantage par rapport à ces personnes-là. Effectivement, ça cause des problèmes au niveau de leur performance, en fait, parce que il y a des joueurs qui en deviennent pratiquement imbattables.
Exactement, et on l'a vu récemment sur la scène internationale, Robert Shaw, qui est un des meilleurs joueurs au Canada, a mordu la poussière 6-0, 6-0, contre un athlète qui semblait ne pas appartenir à cette catégorie. En fait, il s'agit du Néerlandais Niels Vink, qui a 33 victoires, 6 défaites seulement cette année, qui n'a pas perdu depuis la mi-juin. M. Vink est amputé de ses deux jambes et il lui manque quelques phalanges des mains, mais il a quand même une excellente préhension.
Oui.
Et une capacité des muscles abdominaux que ses adversaires n'ont pas. Alors là, toute la problématique, c'est si on fait des catégories plus serrées en
oui.
termes...
on fait donc plus de catégories.
Bien, on fait moins d'athlètes par catégorie.
Oui.
Donc là, on
donc,
peut...
donc, à ce moment-là, on a moins de compétition et...
ça,
à un moment, on, manque, on voilà. manque de joueurs dans les catégories.
Alors là, on, ben, ça pose problème. Alors, c'est sûr qu'un sport comme la natation ou l'athlétisme, où il n'y a plus d'athlètes, para-athlètes qui sont en compétition, là, on peut faire des catégories plus fines. Ah, là, 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 là. Hein? Voilà.
C'est pas facile de plaire à tout le monde.
C'est pas facile de plaire à tout le monde. Mais c'est comme ça.
Au niveau de la Fédération de tennis, on se dit être au courant de la situation et essayer de réfléchir à une solution.
Travailler là-dessus. Oui. Tout à fait. Mais il va y avoir des solutions bientôt. Ben, pour nous, ben, ça va être aujourd'hui ça va être tout. On a Mathieu Tessier à la technique, Claire Guérin à la recherche, Élisane Pellerin. Meilleure
Merci.
Salutation. Bon retour chez vous.
À la semaine prochaine.
À Saint-Jérôme.
Toujours.
Saint-Jérôme, mais partout dans le monde à la fois.
Oui, voilà, je me promène. Hein.
François Beauregard qui vous dit à la semaine prochaine.